Chapitre 2.
Oh mon Dieu, ce qu'il fait froid!
Sitôt ouverte la portière côté passager de la BMW, je regrette profondément d'avoir accepté de parcourir à pied la fin du chemin jusqu'à la maison. J'ai mis mon manteau de laine Ralph Lauren qui me descend jusqu'aux genoux, mais je pourrais tout aussi bien être vêtue d'une feuille de papier tant le vent me traverse de part en part, même lorsque je relève ma capuche. Mais le pire, ce sont mes pieds. Je porte des bottes en cuir, pas vraiment des bottes de neige, si vous voyez ce que je veux dire. Elles ajoutent 10 bons centimètres à ma taille, ce qui est bien appréciable, et elles sont magnifiques avec un jean moulant. En revanche, elles ne protègent absolument pas mes pieds de la couche de neige qui les entoure. Pourquoi, oh pourquoi, ai-je acheté une paire de bottes élégantes qui n'ont aucunement la capacité de jouer le rôle de bottes? Je commence à sincèrement regretter tous mes choix de vie en ce moment. Ma mère m'a toujours dit de ne pas quitter la maison avec des chaussures dans lesquelles on ne peut pas faire un kilomètre.
« Ça va, Tricia ?»
demande Ethan.
« Tu n'as pas froid au moins ?»
Il plisse le front, perplexe devant mes dents qui claquent et mes lèvres qui virent lentement au bleu. Lui, il porte la veste de ski noire qu'il a achetée le mois dernier et, si je ne vois pas ses pieds, je suis presque sûre que ses bottes à lui sont grandes et chaudes. J'ai envie de lui tordre le cou pour m'infliger cette torture. Seulement, ça nécessiterait de sortir les mains de mes poches profondes et causerait probablement des engelures, car contrairement à lui, je n'ai pas non plus de gants. Je dois admettre que le gars est venu mieux préparé que moi. « J'ai un peu froid, si, » je réponds. « Mes bottes ne sont pas faites pour la neige. » Ethan regarde ses propres chaussures, puis moi à nouveau. Après un moment de réflexion, il contourne la voiture et s'accroupit à côté de moi.
« Ok, monte sur mon dos. »
Oubliez tout ce que j'ai dit. J'aime mon mari. Vraiment. Il me porte à cheval sur le reste du chemin, devant le panneau « À vendre », sur la pelouse enneigée et jusqu'à la porte d'entrée. Le perron étant en grande partie protégé de la neige, c'est là qu'il me repose avec précaution sur le sol. Il secoue les flocons de ses cheveux blonds, maintenant humides, et cligne des paupières pour débarrasser ses cils des gouttes d'eau. « Merci, tu es mon héros !» Je lui souris, étourdi d'affection pour mon beau et fort mari.
« Avec plaisir !»
Et il s'incline. Je me pâme. J'adore cette phase lune de miel de notre mariage. Ethan retire ses gants de laine et appuie sur la sonnette. Nous entendons le carillon résonner dans toute la maison, mais malgré plusieurs secondes d'attente, aucun pas ne vient à la porte pour nous l'ouvrir. L'autre chose étrange, c'est que le premier étage de la maison est plongé dans une obscurité totale. Nous avons pourtant tous les deux vu de la lumière à l'étage et en avons déduit qu'il y avait quelqu'un à la maison, supposant que c'était Judy. Mais si Judy était là, elle serait au rez-de-chaussée, non? Pas à l'étage dans une pièce aléatoire. D'ailleurs, l'étage de la maison est lui aussi plongé dans un silence de mort.
Peut-être que les propriétaires sont à la maison,
suggère Ethan, en renversant le cou pour regarder l'imposante propriété dans son ensemble.
Peut-être.
Mais il y a une chose qui cloche avec cette théorie. Aucune voiture n'est visible sur la propriété. Pas que je puisse voir, en tout cas. Bien sûr, en cas de tempête de neige, la voiture du propriétaire serait probablement au garage. Judy, en revanche, ne se garerait probablement pas dans le garage. Donc s'il n'y a pas de trace de sa voiture, c'est qu'elle n'est pas arrivée. Ethan sonne à la porte à nouveau, pendant que je sors mon téléphone de mon sac. « Il n'y a pas de message de Judy », je lui signale. « Cela dit, je n'ai plus de réseau depuis au moins 20 minutes, donc il est possible qu'elle soit en train d'essayer de nous contacter. » Il sort son propre téléphone de sa poche et fronce les sourcils en regardant l'écran.
« Je n'ai pas de réseau non plus. »
Nous n'entendons toujours que du silence en provenance de la maison. Ethan s'approche de la fenêtre à côté de la porte et se place les mains autour des yeux pour voir à l'intérieur. Il secoue la tête.
Non, il n'y a décidément personne au rez-de-chaussée. Je ne suis pas du tout convaincu qu'il y ait quelqu'un ici,
ajoute-t-il avec un haussement d'épaule.
Peut-être que Judy a laissé la lumière allumée à l'étage la dernière fois qu'elle est venue.
Ça ne lui ressemble pas. Judy Teitelbaum est une professionnelle accomplie. Elle fait visiter des maisons depuis avant ma naissance, et chaque propriété qu'elle nous a montrée était immaculée. Elle doit les récurer elle-même. J'ai même peur de toucher quoi que ce soit quand je suis dans une des maisons pour une visite. Si je pose un verre sans sous-verre, je risque de provoquer une attaque chez Judy. Alors non, je ne pense pas qu'elle quitterait une demeure avec une lumière allumée à l'étage. Cela dit,
j'ai du mal à trouver une autre explication. Ethan tire sur le col de sa veste matelassée tandis que j'enroule mes bras autour de moi pour me réchauffer.
Bon, je ne sais pas quoi faire. Elle n'est manifestement pas là.
Je lâche un soupir frustré. Super. Qu'est-ce qu'on est censé faire du coup ?
Attends.
Ses yeux se posent sur le tapis sous nos pieds. Le mot « bienvenue » y est écrit dans une police élaborée, partiellement recouvert par la neige.
Il y a peut-être un double de la clé quelque part.
Pas sous le tapis bienvenue en tout cas, ce serait beaucoup trop évident. Mais une recherche plus approfondie nous permet de trouver une clé dissimulée sous une plante en pot près de la porte. La clé est glacée et légèrement humide. Je regarde Ethan, les sourcils haussés. Alors, tu crois qu'on peut entrer sans elle ? Tu penses que c'est bien ?
Bah, il faudrait mieux. Qui sait combien de temps elle va mettre à arriver ? Et il gèle ici. Je veux pas que tu attrapes une pneumonie.
Termine-t-il, en enroulant un bras protecteur autour de mes épaules. Il a raison. Sans réseau de portable et avec la voiture de plus en plus enfouie sous la neige, nous avons besoin d'un abri. Au moins, dans la maison, nous serons en sécurité. J'introduis la clé dans la serrure et je l'entends tourner. Je pose la main sur la poignée de la porte. Glacée. Mais quand j'essaie de la tourner, rien. La porte ne bouge pas. Ce n'est pas vrai. Je regarde la clé, toujours insérée dans la serrure. Tu crois qu'il y a un pen dormant ?
Laisse-moi essayer.
Je recule pour qu'Ethan tente sa chance. Il agite un peu la clé, puis réessaie de tourner la poignée. Toujours sans succès. Il recule légèrement, puis saisit à nouveau la poignée et se jette de tout son poids contre la lourde porte en bois, qui s'ouvre dans un grincement sonore. « Tu as réussi !»« Mon héros, pamoison, etc. » La maison est plongée dans un noir d'encre. Ethan actionne un interrupteur au mur et mon ventre se serre, car rien ne se passe. Et puis, les lumières au plafond clignotent un instant avant de s'allumer enfin. Dieu merci, il y a du courant. L'éclairage est faible, plusieurs ampoules ont probablement grillé, mais suffisant pour révéler le vaste espace de vie. Et ma mâchoire se décroche. Tout d'abord, le salon est immense, et l'étage ouvert augmente encore l'impression de grandeur. Comme nous avons vécu l'un et l'autre dans des appartements de Manhattan ces dernières années, presque toutes les maisons nous paraissent immenses. Mais celle-ci est immense, comme un musée est immense, comme un aéroport est immense. Et même si sa superficie est importante, elle semble encore plus grande en raison de la hauteur des plafonds. « D'où Jésus ?» souffle Ethan.
« Cet endroit est incroyable. On dirait une cathédrale. »«
Oui. » »«
Et le prix demandé est super bas. J'ai l'impression que cette maison devrait valoir 4 fois plus. »
Alors que je hoche la tête pour lui signifier mon accord, je suis de nouveau prise d'un sentiment de malaise. Il s'est passé quelque chose de terrible dans cette maison.
« Peut-être qu'il y a de la moisissure, »
dit-il pensivement.
« Ou bien les fondations sont en mauvais état. On devrait y faire passer quelqu'un de vraiment compétent avant de signer quoi que ce soit. »
Je ne réagis pas cette fois. Je ne lui dis pas que j'espère secrètement que cet endroit est infesté de moisissures, que ses fondations s'effondrent ou qu'il y a une autre raison pour justifier que je déclare « Non, je ne vivrai pas ici, sans avoir l'air d'une femme déraisonnable qui refuse d'acheter une maison que son mari aime parce qu'elle a un mauvais pressentiment. » Et il y a autre chose d'étrange dans cette maison. Elle est entièrement meublée. Rien que dans le salon, je vois un canapé modulable, une causeuse, une table basse et des bibliothèques surchargées de livres. Je m'approche du magnifique canapé de cuir marron et fais courir mon doigt sur l'un des coussins. Le cuir est raide, comme si personne ne s'y était assis depuis des lustres, et mon doigt en revient noir, de poussière, des années de poussière. Certaines des maisons que nous avons visitées étaient meublées parce que les propriétaires y vivaient encore, mais on voyait qu'elles étaient habitées. Ce n'est pas le cas de celle-là. Chaque meuble du salon est recouvert d'une épaisse couche de poussière. Pourtant, ils ne sont pas du genre que quelqu'un aurait abandonné en déménageant. Le montant du canapé en cuir est probablement à 5 chiffres. Et puis, qui laisse derrière lui absolument tous ses livres ? Le sol aussi est poussiéreux, comme si personne ne l'avait foulé depuis longtemps. Lorsque je lève les yeux, je remarque d'épaisses toiles d'araignées dans tous les coins du salon. Je peux presque imaginer les bestioles rampant sur leurs toiles, attendant de planter leurs crocs en moi. Preuve supplémentaire que Judy n'est pas venue ici.
Impossible qu'elle laisse une maison dans un tel état de saleté. Et des toiles d'araignée ? Aucune chance. C'est contraire à sa religion. Je me tourne vers Ethan, sur le point de le lui faire remarquer. Mais il est distrait par quelque chose. Un gigantesque portrait de femme accroché au-dessus de la cheminée. Il le contemple attentivement, la mine étrangement sombre. « Hey, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il bat des paupières, clignement de cils pâles, et semble surpris que je me tienne soudain à côté de lui, comme s'il avait oublié ma présence. « Oh, rien, c'est juste... Qui c'est, à ton avis ?» Je suis son regard jusqu'au portrait. Il est gigantesque, plus grand que nature. Et la femme qui y figure est saisissante. Il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Si on la croise dans la rue, c'est le genre de femme qui vous oblige à vous arrêter pour la regarder à deux fois. Elle a l'air d'avoir une trentaine d'années, des cheveux très raides qui lui tombent juste au-dessous des épaules. Au premier abord, je les aurais qualifiées d'auburn, mais lorsque je penche la tête sur le côté, ils prennent une nuance de roux éclatant. Sa peau est pâle et sans le moindre défaut. Mais bon, tout le monde peut avoir une belle peau sur un tableau. L'un de ses traits les plus frappants, ce sont ses yeux verts vifs. Beaucoup de gens ont des yeux verts, mouchetés de brun ou de bleu. Mais les siens sont d'un vert si intense qu'on les croirait capables de sortir de la toile. « Peut-être qu'elle vivait ici ?» Je suggère. Les lèvres d'Ethan se tordent en un rictus.
Quelle arrogante obsédée par son image accrocherait une peinture gigantesque d'elle-même au-dessus de la cheminée.
Tu veux dire que tu t'opposes à ce que je suspende une peinture géante de moi au mur de notre nouvelle maison ?
Je le taquine. Ethan me lance un vague sourire. Quelque chose dans ce tableau l'a troublé et il ne semble pas vouloir en parler. Je m'approche de la bibliothèque près de la cheminée, toujours dans mon manteau de laine, car il fait bien trop froid pour l'enlever. Celui ou celle qui a vécu ici devait aimer lire, parce qu'il y a plusieurs bibliothèques disséminées dans la pièce, toutes ployant presque sous les livres. Je jette un coup d'œil à quelques titres sur les étagères, au cas où nous serions coincés ici un certain temps et où j'aurais besoin de quelque chose pour me distraire. Une étagère entière contient des livres portant exactement le même titre. L'anatomie de la peur. Un petit frisson me parcourt l'échine et je serre mon manteau autour de moi. Je sors l'un des nombreux ouvrages reliés de l'étagère, recouvert d'une couche de poussière, comme tout le reste dans la maison. L'anatomie de la peur d'Adrienne Hale, docteur en médecine. Un couteau dégouline de sang sur la couverture. Génial. Exactement ce que je veux voir en ce moment. Je retourne le livre. Quelques citations choisies d'auteurs et de professionnels du livre font son éloge. Et dans le coin inférieur gauche, une photo de l'autrice. La femme dont le portrait est accroché au-dessus de la cheminée.
Ethan, regarde ça!
Il détache ses yeux de la toile et me rejoint près de la bibliothèque. Il regarde par-dessus mon épaule la photo au dos du livre. Adrienne Hale, lit-il sur la quatrième de couverture.
C'est pas cette psy qui a été assassinée?
Il a raison. Il y a 3 ans, la disparition du docteur Adrienne Hale a fait la une de tous les journaux. D'autant plus que l'événement est survenu peu de temps après la sortie de son livre de psychologie grand public, un carton de librairie qui est resté sur la liste des best-sellers du New York Times pendant près d'un an, monopolisant la première place pendant des mois. Tous les habitants de ce pays ont lu le livre, y compris votre servante. Bien entendu, le succès massif de l'ouvrage s'explique en grande partie par la disparition sensationnelle de son autrice.
« Elle a disparu », je corrige. Je pense pas qu'ils aient jamais retrouvé son corps.
Il me prend le livre des mains et feuillette les pages.
Je parie qu'ils ont fini par la retrouver, noyée quelque part.
Adrienne Hale a disparu de l'actualité il y a au moins 2 ans, et son livre a également dégringolé dans les classements.
Peut-être. Tu l'as lu, non ?
Les yeux toujours rivés sur les pages, il secoue la tête.
Je déteste ces conneries de psychopop.
Non, c'était vraiment bien.
Je le corrige. Un doigt pointé vers les pages ouvertes dans sa main.
C'est à propos de ces patients, tu sais ? Les expériences horribles qu'ils ont vécues et la façon dont ils les ont surmontées.
Ouais, non, ça m'intéresse pas.
Il repose le livre sur une étagère au hasard, soudain blasé. Ethan n'est pas un grand lecteur.
C'est son petit ami qui l'a tué, c'est ça ?
Je me souviens de cette partie.
Un technicien informatique ou quelque chose comme ça.
On l'a accusé. mais je pense pas qu'il soit allé en prison.
Je nuance. C'était probablement lui le coupable, n'empêche.
Probablement, j'acquiesce. Il y a beaucoup d'hommes dangereux dans la nature. Il me prend la main et m'attire à lui, si près que je sens son souffle chaud sur ma joue.
Tu n'es pas contente que je t'ai sauvée de tous ces abrutis ?
Je lève les yeux au ciel, mais il n'a pas tout à fait tort. Je suis sortie avec quelques connards par le passé. Aucun n'était un meurtrier comme le petit ami du docteur Adrien Hale, mais un type m'a quand même trompée avec ma meilleure amie. C'en était presque un cliché. Ethan, quant à lui, est incroyablement fidèle depuis que nous sommes ensemble. Il ne regarde même pas les autres femmes, et pourtant elle le regarde tout le temps. « Alors, tu crois que c'est sa maison ?» Je lui demande. « Celle du docteur Adrien Hale ?» Il jette un nouveau coup d'œil au portrait.
« Probablement. Ça, ou l'habitant des lieux était dangereusement obsédé par elle. »
Malgré mon manteau, je suis encore gelée. Je me frotte les bras pour me réchauffer. Si nous sommes coincés ici un moment encore, nous allons peut-être trouver un moyen d'allumer le chauffage. Ethan est doué pour ce genre de choses. « Ça te dérangerait pas de vivre dans la maison d'une femme morte ?» Il hausse les épaules.
« Pas vraiment. Tout le monde finit par mourir, non ? Donc, à moins d'acheter une maison neuve, il est quasi obligatoire que quelqu'un ait vécu dans celle que tu achètes et qu'il soit mort maintenant. Et alors ?»
Nouvelles choses amusantes que j'apprends sur mon mari tout neuf, le spirituel et lui, ça fait deux. Je parcours du regard le contenu de la bibliothèque et m'arrête sur le livre qu'Ethan a rejeté avec désinvolture sur l'étagère. J'ai l'impression qu'Adrien Hale n'aimerait pas qu'il mette le bazar dans sa bibliothèque, comme s'il perturbait l'énergie de la maison. Je prends le volume et le replace à l'endroit d'où il vient. Espérons que ça apaise temporairement son fantôme, même si son assassin est toujours en train de rôder dans la nature. Mon estomac laisse échapper un gargouillis embarrassant. « Tu penses que Judy va arriver quand ? Je meurs de faim. »«
Je n'en ai aucune idée. Laisse-moi aller revérifier si sa voiture est dans le garage. »
ajoute-t-il avec un coup d'œil à sa Rolex. Pendant qu'Ethan part en quête de la porte qui mène au garage, mon regard tombe sur le sol sous mes pieds. Le bois est tellement sale que je rechignerais à marcher pieds nus ici. La plante de mes pieds deviendrait toute noire. Mais en observant le parquet à la lumière vacillante des plafonniers, je remarque un changement dans le motif de la poussière près de la bibliothèque. On dirait presque une empreinte de pas. Je m'approche pour mieux voir, les yeux plissés à cause de la lumière faiblarde. Oui, on dirait bien une empreinte de pas. Je place ma propre botte à côté de l'empreinte. Celui qu'il a laissé a des pieds bien plus grands que les miens. Est-ce l'empreinte d'Ethan ? Le pied a l'air à peu près de sa pointure, mais je ne l'ai pas vu marcher ici. Au moment où je me fais cette réflexion, Ethan arrive par une porte près de la cuisine, en brossant ce qui ressemble à une toile d'araignée sur son épaule.
« Le garage est vide. Judy n'est pas là. »
Je frissonne, même avec mon manteau. « Hé, viens voir ça !» Ethan s'approche de moi et je me rends compte que tous les deux, nous créons de nouvelles empreintes partout où nous allons.
« Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?»«
C'est une empreinte de pas ?» Il plisse les yeux et étudie les traces de poussière sur le sol.
« Peut-être, oui. »
« Alors qui l'a laissé ?»«
Je sais pas, Judy ?»
Je hausse les sourcils. « Tu crois que Judy porte des chaussures d'homme pointure 44 ?» Ethan lâche un soupir, et je vous le jure, je vois son souffle dans le salon glacial.
« Alors peut-être un autre acheteur potentiel qui a visité la maison. »
Sauf qu'il est impossible que Judy ait montré à quelqu'un une maison aussi poussiéreuse. Mes yeux courent sur le sol, mais je ne vois pas d'autres empreintes de pas aussi visibles que celle-ci. « Tu penses que Judy va arriver dans combien de temps ?» Il fronce les sourcils. « Je ne sais pas si Judy va arriver jusqu'ici, Tricia. »«
Elle ne nous poserait pas un lapin ?»« Certes, mais il y a le blizzard. On a eu du mal à arriver et la neige ne fait qu'empirer. Honnêtement, c'était irresponsable de sa part de programmer une visite ce soir. »
Je mords l'ongle de mon pouce. « Alors... tu crois qu'on risque de rester coincé ici ? Pour la nuit, par exemple ? » Nos têtes pivotent simultanément vers l'une des fenêtres panoramiques. La neige tombe plus drue que jamais, comme un rideau blanc lâché du ciel. Notre voiture est probablement ensevelie, et ce n'est pas comme si elle roulait déjà très bien dans la neige jusqu'ici.
« Ce n'est pas impossible, »
admet-il.
« Mais ne t'inquiète pas, regarde cet endroit. Je parie que la cuisine est remplie de nourriture. » Et même si ce n'est pas le cas, on a le kit d'urgence que tu m'obliges à transporter dans le coffre. Il n'y a pas des barres énergétiques là-dedans ?
Je pense que si.
Allons donc chercher quelque chose à manger.
Sur ce, Ethan se dirige à grands pas vers la cuisine. Je n'arrive pas à croire qu'il ne soit pas le moins du monde inquiet, alors que nous voilà piégés dans cette maison inconnue pleine de toiles d'araignées et d'empreintes de pas effrayantes. Mais Ethan est comme ça, toujours sûr de lui. C'est une chose que j'adore chez lui. Je suis donc mon nouveau mari jusqu'à la cuisine. Cela dit, je n'arrive pas à me débarrasser de l'horrible sensation que les yeux verts du portrait au-dessus de la cheminée m'observent.